Voici, monsieur, la photographie prise dans le magazine Voici, quelque temps avant ma disparition. Vous pouvez juger de ma ressemblance physique. Galien regarde la photographie. C'est Mademoiselle Pontois en robe de soirée blanche. L'article dit qu'elle est présentée au gala des artistes. La photographie ressemble à la jeune fille qui est à côté de lui. Il lui dit « Vous semblez ressembler à cette personne prise par la photographie, mais cela ne veut rien dire. Vous pouvez être un sosie ou la photographie peut être truquée. » La jeune fille lui dit « Viens, viens, vous n'avez pas envie de m'écouter. Je vous laisse. Et si vous changez d'habit, j'habite le Grand Hôtel. Je suis sous le nom d'Anne Fleury. » Elle s'éloigne. Galien range le bout de journal dans son portefeuille. Philippe lui dit « Elle n'a pas l'air folle en tout cas. » Galien lui dit « Beaucoup de fous n'ont pas l'air fous. J'espère c'est qu'elle ne reviendra pas à la charge. » À 18h, ils rentrent et vont au salon. Et ils retrouvent Danfort. Il fait signer quelques papiers à Galien qui lui dit « Vous devriez prendre un peu de repos, monsieur. » Danfort lui répond « J'aime pas les vacances. J'ai l'impression que c'est de perdre mon temps. Et puis, j'aime mon travail. C'est passionnant de chercher à résoudre des problèmes, à prévoir l'avenir et à servir un si grand groupe qui, entre parenthèses, prend de plus en plus d'importance. » Pendant le dîner, Galien lui raconte l'histoire de la jeune fille. Danfort lui dit
« Vous n'auriez pas dû la renvoyer comme ça. Et si c'est vraiment elle, j'en ai l'air de quoi? Surtout que nous cherchons à regrouper nos deux groupes, à nous fusionner. Il faut être plus diplomate. La fusion de nos deux groupes en vaut la peine. »
Galien lui dit « Mais cette histoire est abracadabrante. » Danfort lui demande.
« Vous l'avez écoutée ? » ?»«
Non, mais même la famille Pontois ne veut pas la recevoir. » Danfort lui dit.
« Pour le moment, mais on ne sait jamais. » Et puis, écoutez son histoire. Si on veut vraiment savoir qui elle est, ce qu'elle dit est vrai, n'oubliez pas, c'est que l'ADN peut nous dire si c'est vrai. »
Galien lui dit « C'est vrai? Je vais lui proposer ça. » L'enfant lui dit
« Et en plus, pensez à la publicité que ça va nous donner. Toutes les grandes familles voudront passer à l'ADN pour savoir si elles ne sont pas apparentées à des familles encore plus grandes. Et la police, etc. »
Philippe demande « C'est sûr l'ADN ?»
L'enfant lui dit « C'est ce qu'il y a de plus sûr pour le moment. »
Le lendemain, Galien dit à Monsieur Danfort:
« J'ai réfléchi, vous avez raison. Je vais recevoir cette personne et lui proposer l'ADN comme expertise.
Si c'est vraiment elle, nous aurons toute sa confiance. Et si ce n'est pas elle, nous aurons celle de la famille Pontois. De toute façon, nous ne serons pas perdants. L'enfant lui dit, vous avez raison. Et Galien, à 15h, va au grand hôtel, vieil hôtel du 19e de grande classe, meublé avec des meubles d'époque. C'est ce qu'il y a le mieux pour les hôtels de grand luxe. Il entre dans l'hôtel et va à la banque du concierge.
Un homme grand, fort, à cheveux gris.
Vous désirez, monsieur ? Galien lui dit. J'aimerais parler à mademoiselle Anne Fleury.
De la part de qui ?
Monsieur Galien Diap. Le concierge regarde son registre.
Prend le téléphone. Fait un numéro.
Allô ? Mademoiselle Fleury ? Je suis le concierge. Il y a un jeune homme qui désire vous parler. C'est monsieur Diap.
Bien, mademoiselle.
Mademoiselle Fleury va descendre, monsieur.
Bien, merci.
Et Galien s'éloigne. Il attend en faisant les 100 pas. Il la voit sortir de l'ascenseur et venir à lui. Elle porte une petite robe beige et lui trouve une grâce infinie. Même si ce n'est pas elle, elle est très bien. Elle lui tend la main.
Bonjour, monsieur Diap.
Galien lui dit.
Bonjour, mademoiselle. Elle lui dit. Vous désirez me voir ?
Oui.
Allons au salon.
Elle le conduit au salon de l'hôtel, qui est une très grande pièce avec des chaises, fauteuils, tables blanches, décorées 19e, couleur feuilles mortes, avec des bouquets partout. Ils arrivent à se trouver un coin tranquille, s'assoivent sur des fauteuils en face d'une table basse. On entend la musique douce, des gens vont en viennent autour d'eux.
Elle lui demande, vous désirez boire quelque chose ? Il lui répond, oui, un jus de tomate.
Elle fait signe à un serveur qui s'approche d'eux.
Deux jus de tomate, s'il vous plaît.
Bien, madame. Et il s'éloigne. Elle lui dit,
je vous écoute. Il lui dit, bien voilà, j'ai réfléchi et j'aimerais entendre votre histoire.
Et elle lui dit, vous avez changé d'avis ?
Il lui répond, il ne faut pas m'en vouloir.
Vous n'êtes pas à ma place. Je reçois une lettre comme quoi une affaiblissatrice va venir me voir.
Vous savez, des gens de toutes sortes veulent me contacter pour me demander de l'aide. Lorsqu'on a une fortune, on est très demandé.
Elle lui dit, je comprends. Le serveur vient leur apporter leur boisson.
Merci.
Et il s'éloigne. Il lui demande,
comment faites-vous pour vivre dans ce luxe ?
Elle lui répond.
Cela vous intrigue, hein ? C'est tout simple. Une personne s'est mise à avoir de l'affection pour moi, une vieille dame, et elle a cru à moi. Elle m'aide financièrement.
Il lui demande, en échange de quoi ?
Elle lui répond. De rien du tout. Elle est d'un autre monde, d'une autre époque. C'est l'ami de Pontois, le grand-père, qui a décédé, hélas, car lui m'aurait aidé. Elle est bonne, très âgée, elle a toujours eu de l'affection pour les Pontois, et elle a cru en mon histoire.
Galien lui demande,
elle ne peut rien faire pour vous ?
Elle lui dit,
non, elle ne fait pas partie de la famille. Kalia lui dit « Racontez-moi votre histoire. » Après avoir bu une gorgée, elle lui dit « Voilà, juste avant la mort de mon pauvre père, je suis partie de la maison. J'avais des différends avec ma famille, des différends très graves. Donc je suis partie sans laisser d'adresse, quittant la France pour aller en Afrique. Je voulais aider les pauvres. Vous voyez ?» Il lui dit « Oui. » Elle continue. Je suis procuré à Marseille une fausse identité pour être tranquille et pouvoir parcourir l'Afrique comme je le voulais. Là, j'ai réussi à entrer dans une institution religieuse qui avait besoin de bras. Je faisais la femme de service et l'aide-soignante. C'était pénible, mais ça ne me déplaisait pas. Kalia lui demande « Vous avez appris la mort de votre père ?» Elle lui dit « Oui, bien sûr, le monde entier l'a appris. Je venais tout juste de débarquer d'Afrique, mais j'ai pas voulu retourner là-bas. Puis, ma famille et moi, c'était fini. J'étais complètement brouillé avec elle, et même avec père, surtout avec lui. Puis-je vous demander pourquoi ? Je ne vous le dirai pas, c'est purement familial. » Donc après quelques années en Afrique, en faisant un travail pénible, le climat, les épidémies, la guerre, tout ça épuise physiquement et moralement. J'ai fait un début de dépression, ce qui est tout à fait normal. Et l'on m'a dit de rentrer en France, me reposer. J'ai accepté, surtout que j'avais envie de revoir mon frère Lucien. Il lui dit, mais je croyais que vous étiez forché avec votre famille que vous ne voulez plus les voir. Oui, mais mon frère, c'est autre chose. Alors je suis parti pour la France. Arrivé en France, toujours avec mon faux nom, je pris le train pour Lyon. Au cours du trajet, le train a déraillé. Mon wagon s'est retourné. La peur, le choc, le coup à la tête m'ont fait perdre connaissance. Je me suis retrouvé à l'hôpital, ne sachant plus qui j'étais. Après m'avoir soigné, mes plaies, on me mit dans une maison, puisque je ne savais pas qui j'étais pour me soigner. Là, un médecin s'est intéressé à moi. Il a fait des recherches pour savoir qui j'étais. Kalia lui dit, « Mais vos papiers ?» Il lui dit, brûlé, je ne sais pas. Il a fait des recherches avec l'aide d'une commissaire. Ils ont regardé toutes les jeunes femmes qui avaient disparu. Et m'ont comparé. Alors, avec la photographie de Claire Pontois, ils ont vu. Kalia lui a dit, c'est eux qui ont dit que vous étiez Claire Pontois. Mais vous, moi, je ne savais pas. Petit à petit, ils m'ont réappris mon histoire. Et vous y aviez cru ? Et l'histoire d'Anne Florie ? Il ne pouvait pas le savoir. Elle lui dit, c'est moi qui m'en suis souvenu. Ensuite, j'ai voulu voir leur famille. Mais elle n'a pas voulu me recevoir. Je les comprends. Puis la vieille dame, qui a connu les Pontois, a appris mon histoire et est venue me voir. Et elle m'a cru. Elle a voulu s'occuper de moi. En souvenir de l'amour qu'avait le grand-père pour elle. Kalia lui demande, et pourquoi êtes-vous venu jusqu'à moi ? Parce que la vieille dame avait entendu parler de vous et que vous étiez très bon et que naissiez les Pontois. Et que si vous me croyez, vous pourriez convaincre les Pontois. Il lui dit, j'ai bien entendu votre histoire, mais rien ne me dit que vous êtes la fille Pontois. Elle lui dit, si, moi. Il lui dit, même pas. Et comment en êtes-vous sûr? Elle lui dit, parce que des souvenirs me reviennent de temps en temps. Il lui dit, c'est sûrement peut-être parce que provoqué par les gens qui vous en parlent, votre entourage, elle répond, c'est ridicule. Et après, et pourquoi le ferait-il? Pour avoir la part de l'héritage aussi, elle lui dit. Ce ne sont pas des pantois, mais votre ami non plus. Elle soupire et lui dit. Vous ne le croyez vraiment pas? Alors, il lui dit. Comment pourrais-je? Comment avez-vous retrouvé que vous étiez aussi Anne-Flory? C'est moi qui me suis souvenu de ce nom. J'en fais des recherches après. Et appris que je venais d'Afrique. Alors, j'en ai déduit tout ce que je vous ai dit. Il lui demande, est-ce que vous vous souvenez plus sur Anne-Flory ou sur les Pontois? Elle lui répond agacée, je ne sais pas, je ne sais plus. Elle se lève et lui dit, j'en ai assez. Je ne sais plus. Je veux qu'on l'accepte comme Anne-Pontois. Il lui demande, et pourquoi pas comme Anne-Flory? Elle lui dit, parce que je suis... Je suis un Pontois. Elle se met à pleurer et se sauve en courant. Il se lève et lui court après. Il ne sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle est très belle. Elle sort de l'hôtel, il continue à lui courir après. Mademoiselle, mademoiselle, ne vous sauvez pas, je vais encore vous parler. Elle s'arrête de courir sur la plage. Il va vers elle. Il lui demande, pourquoi vous êtes-vous enfui? Elle lui dit, à quoi bon? Vous m'avez appelé mademoiselle, non Claire ou Anne. Pour vous, je ne suis rien. Il lui dit, écoutez, laissez-moi voir la vieille dame qui vous a aidé, elle lui dit. Mais elle est morte, il y a peu de temps. Elle m'a mis sous son testament. Il lui dit, je suis navré, elle est morte de quoi? Elle est tombée des escaliers, chez elle. On ne sait rien de plus. Maintenant je suis seul. Et il se dit, malgré lui, est riche. Elle lui dit, que faisons-nous? Il lui répond, je ne sais pas. Elle regarde la mer. Il lui dit, il y a peut-être une solution, c'est l'ADN. Si vous avez le même ADN que Lucien Pontois, c'est que vous êtes de sa famille. On peut même prendre l'ADN de Madame Pontois. Elle lui dit, je ne crois pas à ces choses, monsieur. Et je ne veux pas être un cobaye. Elle se sauve en courant. Il lui court après et lui dit, c'est la seule solution et la plus sûre. Après, vous serez tranquille. Elle lui répond, de qui? Moi, je sais qui je suis. Elle se sauve en courant. Elle tombe et s'égratigne le genou. Il accourt à elle, la relève et la fait asseoir sur un rocher. Vous n'avez pas trop mal? Non, c'est pas trop grave. Il voit que les égratignures saignent un peu. Il prend son mouchoir et éponge le sang. Elle lui dit, merci. Il remet son mouchoir dans sa poche et lui dit, j'aimerais rentrer à mon hôtel, me reposer un peu. Oui, bien sûr. Il l'aide à se lever et l'aide à marcher jusqu'à son hôtel. Elle lui dit, nous parlerons plus tard de cette histoire. Vous ne voulez vraiment pas alors? Elle lui dit, Non, je ne crois pas à toutes ces histoires. Fort accompagnée, à son hôtel, elle lui dit « Au revoir, monsieur », il lui dit.
Si vous changez d'avis, elle lui dit. Les pions ont changé. C'est vous qui maintenant veuille me convaincre de me revoir.
Non, merci, monsieur, d'être venu.
Et elle s'éloigne.
Il entre chez lui. Et dit à l'enfant qu'elle ne veut pas le test. Il lui dit.
Cela veut dire qu'elle n'est pas claire de bon toit. Calia lui dit. Ou qu'elle ne croit pas à ses tests. Si elle était vraiment claire de bon toit, elle n'aurait pas peur des tests. Mais là, Galien lui dit, le mystère reste entier.
Les jours passent et un jour Galien va à l'hôtel pour avoir des nouvelles de la jeune fille.
Le concierge lui dit « Monsieur, elle vient tout juste de partir. Elle prend l'avion pour Paris. Il part dans une heure. »
Galien se dit « Tant pis,
il est trop tard. »
Sur la plage, il retrouve Philippe et lui raconte tout.
Philippe lui demande « Tu as cru son histoire ?»
Galien lui dit « Je ne sais pas, mais c'était une personne bien et touchante et je crois qu'elle y croyait. »
Philippe lui dit « Moi je crois plutôt que c'était une aventurière et que même elle a tué sa vieille protectrice pour hériter d'elle. C'est une femme. » Qui vit d'héritage.
Galien lui dit « Mais pourquoi s'obstine-t-elle tant sur celui des Pontois ?
Elle perd son temps et pourrait chercher ailleurs. »
Philippe lui répond « Parce qu'il lui donne en plus de la fortune le nom. Et quel nom ? Ce nom lui ouvre toutes les portes. La preuve, elle est venue jusqu'à toi grâce à ce nom. »
Galien lui dit « De toute façon, on ne saura jamais parce qu'elle refuse le test. »
Philippe lui dit « De toute façon, vos tests ne sont pas à 100% sûrs. Regarde, si elle n'a pas le même ADN que son frère, cela veut peut-être dire que sa mère a eu un amant ou que l'on a pu intervertir des bébés à la maternité ou intervertir les ADN, je ne sais pas moi. »
Galien lui dit « Avec toutes ces supposition, il n'y a plus de science. Le hasard tient lieu de loi, donc plus de certitude.
Non.
Et si l'ADN est bon, de toute façon, il faut croire à quelque chose. Pour commencer, autrement, on ne fait rien. »
Philippe lui dit, même le trou noir, on n'y croit plus.
Une heure plus tard, ils sont au salon à se reposer.
On frappe à la porte.
Entrez.
C'est Danfort
qui va vers eux et leur dit:
elle a pris l'avion pour Paris.
Galien dit: oui.
Eh bien, je viens d'apprendre par la radio qu'il a explosé en vol. Aucun survivant.
Galien effondré. La pauvre. Danfort lui dit:
nous ne saurons jamais.
Galien lui dit:
ça doit être une mort terrible.
Sûrement, monsieur.
Durant le repas, qu'ils prennent en silence, Galien prend son mouchoir pour s'éponger le visage et voit qu'il est taché. Danfort le voit aussi.
Vous vous êtes blessé, monsieur ?
Non, c'est la jeune fille. Elle est tombée et s'est égratignée. Je l'ai épongé un petit peu le sang.
Danfort lui dit : tenez-moi ce mouchoir, monsieur. Nous pourrons peut-être, on ne sait jamais.
Galien lui dit: vous croyez?
Oui, qui sait?
Galien lui donne le mouchoir. Danfort se lève.
Je vais le mettre dans un plastique, au réfrigérateur.
Et il revient.
Et dit à Galien: demain j'enverrai à mon laboratoire.
Galien lui dit: mais nous n'avons pas l'ADN des Pontois.
L'enfant lui dit: je m'en charge. Nous l'avons déjà dans l'ordinateur. Félicien Pontois va revivre sous la forme d'un ordinateur et en plus à notre service.
Galien lui dit: mais cela ne servira à rien puisqu'elle est morte.
Danfort lui dit: si, parce que s'il y a une autre jeune fille qui veut se dire être la fille Pontois, et si celle-là c'est la bonne, c'est la fin des présumées filles Pontois.
Demain matin, Danfort va au réfrigérateur.
Il veut récupérer le mouchoir. Il n'y est plus. Il va frapper à la chambre de Galien. Entrez.
Monsieur, est-ce que c'est vous qui avez pris le mouchoir dans le réfrigérateur ?
Non, il n'y est plus ?
Non, monsieur.
Vous en êtes sûr ?
Oui.
Allons voir.
Et il ne trouve rien. Il demande à Philippe, au domestique.
Rien.
Danford et Hagelien.
Si c'est vous qui avez fait ça, monsieur, ce n'est pas bien du tout.
Gallien lui dit, je vous assure que non. Moi aussi, j'étais curieux de le savoir. Tout à coup, Danford voit qu'une vitre de la fenêtre de la cuisine a été brisée. Il la montre et dit, on est venu le chercher. Gallien lui dit, mais qui ?
Danford lui dit, une personne qui ne souhaite pas que l'on sache la vérité. Mais qui ? Mystère.
Deux jours après, les vacances sont finies et s'en retournent. D'abord, on ramène Philippe chez lui. Une fois à Lyon, Gallien dit à Danford, je dois aller voir mes parents, autrement ça va aller mal pour moi. Et oui, je suis encore pour eux, leur fils. Danford lui dit,
vous avez de la chance, c'est d'avoir encore l'âge de jouer au fils.
Ils emmènent Philippe jusqu'à chez lui. Les deux cousins s'embrassent et Philippe demande « On se revoit quand ?» Gallien lui dit « Si tu veux, tu peux venir vivre avec moi à Paris ?» Philippe lui dit « Je m'habituerai jamais à cette vie. Et puis qu'est-ce que je ferai là-bas » Gallien lui dit
« Tu feras comme tout le monde, tu travailleras avec moi ?» Philippe lui dit « Non, je veux rester libre, je ne veux pas de rapport. » Patron-employeur entre nous.
Gallien lui dit, tu sais bien que ce ne sera jamais comme ça entre nous. Philippe lui dit, pour les autres, oui. Gallien l'embrasse et lui dit, je téléphonerai. Et Philippe entre dans sa maison et Gallien dans la voiture. Gallien va sonner chez ses parents. La porte s'ouvre, c'est le domestique.
Bonjour, mes parents sont là ?
Oui, monsieur,
ils sont au salon. Bon, j'y vais.
Frappe à la porte du salon.
et entre.
Ses parents sont assis sur des fauteuils. Lorsqu'ils le voient, ils se lèvent et vont vers lui.
Sa mère lui dit « Oh, te voilà enfin !»
Ils s'embrassent.
Sa mère lui dit « Tu daignes tout de même nous rendre visite. Monsieur passe son temps à aller voir son cousin et n'a pas le temps d'aller voir ses parents. Tu ne nous aimes pas. »
« Mais si, mère. »
« Mais non, tu t'inquiètes même pas de nous. Ne demande jamais de nos nouvelles. »
Galien est tout rouge de honte et lui dit
« C'est-à-dire que je suis très pris ?» Elle lui dit « Sauf pour Philippe. Tu sais que ton père a été très fatigué ?»
Aubert lui dit « Laisse cela, ça ne l'intéresse pas. »
Galien lui dit « Mais si, père, je ne le savais pas. Vous auriez pu me le dire, me le faire savoir.
Qu'avez-vous eu ?»
Le père hausse les épaules.
Sa mère lui dit
« Il a eu une bronchite. » Et un petit ennui cardiaque.
Galien lui dit « Et il va mieux maintenant ?»
Elle lui répond « Oui. »
Galien dit à son père « Si tu veux, je peux te faire ausculter par un de mes spécialistes. »
Sa mère lui dit « Surtout pas. Il paraît que vous faites des expériences horribles sur des cadavres et même des êtres vivants. »
Galien lui dit « C'est faux. Ce sont des racontars. Et puis, père, c'est mon père. » Il n'oserait pas.
Le père lui dit, je te remercie, je vais très bien en ce moment. Je suis complètement guéri.
Galien lui dit, il faut me prévenir si vous avez des ennuis.
La mère lui dit, on ne serait pas obligé de te prévenir si tu venais plus souvent nous voir.
Il lui dit, je fais ce que je peux. Vous savez, j'ai beaucoup à faire. Je reçois beaucoup.
Elle lui dit, cela ne l'empêche pas de voir ton cousin.
Galien lui dit « Tu vas pas me reprocher que je le voie ?»
Son père dit à sa femme « Laisse. D'ailleurs, ils ont toujours été ensemble, comme des frères jumeaux. Il vaut mieux qu'ils s'entendent bien que s'ils se disputaient ou se jalousaient. Mais c'est vrai, tu pourrais venir nous voir un peu plus souvent. »
La mère dit « Tu restes pour le dîner ?»«
Oui, je reste. »
Il reste pour leur faire plaisir.
Il prévient Danfort qu'il reste pour le dîner. Danfort ira manger au restaurant.
Durant le repas, la mère lui parle.
J'ai vu Madame de Hautebord. Elle m'a dit que Flore t'avait vu à Paris, que vous vous étiez vu, même très souvent.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La deuxième époque de violence et crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.